Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour. Alors ce matin, je suis dans la forêt, il fait encore nuit, et il y a une lune magnifique entre les arbres qui produit une sorte de halo de lumière, et ça crée un tableau comme la nature sait les faire, absolument incroyable, entre les arbres dépouillés de leurs feuilles, avec toutes ces silhouettes silencieuses, tranquilles, qui s'élancent vers le ciel, c'est magnifique. Et je suis là ce matin parce que j'avais envie de parler du pardon. Parce que c'est une notion qui s'est présentée à moi dans des circonstances diverses. Bien sûr, ça a à voir aussi avec l'éducation des enfants, puisque « va de lui demander pardon », par exemple, c'est une petite phrase que l'on va retrouver dans l'éducation conventionnelle assez fréquemment, où on va proposer à l'enfant de dire pardon. Et j'avais envie de voir quel impact cela peut avoir sur notre vie émotionnelle, relationnelle, affective, et même spirituellement, j'ai envie de dire, parce que ça va toucher très profond, cette notion de pardon. Et aussi, ce qui a été activé à nouveau chez moi dans cette idée de pardon, c'est que c'est une notion que j'ai rencontrée dans des processus de résolution de conflits récemment, où les écrits proposent, en fin de processus, qu'il y ait une séance de pardon entre les participants. Voilà, et ça m'a laissé un peu perplexe par rapport à ce que je connais des processus de résolution de conflits, où dans ce que j'ai pratiqué jusqu'à présent, il n'y avait eu pas cette notion de pardon. Ça m'a interrogée, et encore un espace dans lequel le pardon est revenu à moi, ça a été... Lorsque nous avons été face à notre expulsion du hameau des Buis, j'ai consulté diverses personnes. Avec Laurent, on a fait de la constellation systémique, on a fait appel à... On a consulté des chamans, on a consulté des personnes diverses et variées qui ont un rôle dans le lien entre ce qui nous arrive et ce qu'il faut en comprendre. Et il y a une de ces personnes qui, à un moment donné, m'a dit « De toute façon, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes, c'est ce qui t'est demandé, le pardon. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur de moi, je voyais que ce n'était pas du tout OK, en fait. Que ce qui a été fait, les actes, pour moi, il n'y a pas un endroit de moi qui me dit « bon, allez, d'accord, je passe l'éponge, c'est pas si grave, parce qu'au fond, peut-être c'est mon chemin, mon destin, peut-être que la personne, elle me rend service, ou les personnes, elles nous rendent service en, finalement, en agissant ainsi, et ça va tracer la suite de notre chemin, peut-être qu'on en avait besoin, peut-être que c'est un signe, peut-être que c'est un message que nous avions besoin d'entendre, etc. Donc merci, merci, merci. Ben non, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans mon cœur et en moi. Donc, moi, je suis une adepte de la réalité. Et si quelque chose n'est pas, j'ai besoin de le reconnaître. Je vais pas m'auto-persuader que ça devrait être ou que c'est moi qui suis complètement tordue ou en inadéquation avec une vérité qui est là, qui préexiste et qu'il faudrait que j'arrive à rejoindre. Sinon, je suis coupable encore de quelque chose. Donc tout ça, j'ai pas du tout envie de verser là-dedans. Moi, je préfère regarder ce qui est. Et dans ce qui est, j'ai un malaise par rapport à cette notion de pardon. Alors ce malaise, je l'avais déjà dans mon rôle de maman et d'enseignante auprès des enfants. Parce que jamais, 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 de toute mon existence d'accompagnante auprès des enfants, je n'ai demandé à un enfant de dire pardon. Déjà, je me sens pas légitime pour faire ça. Qui je suis pour dire à l'autre ce qu'il doit ressentir d'une situation ? Si le pardon vient, et c'est arrivé, puisque j'ai fait des centaines de médiations, c'est sûr que parmi ces centaines de médiations, il y a des fois où la médiation s'est soldée par « écoute, vraiment, je te présente mes excuses ou je te demande pardon pour ce qui s'est passé ». Mais l'enfant ou l'adulte qui a déposé ça l'a fait spontanément. Il n'y a eu aucune demande. C'est pour ça que je suis assez dérangée quand cette exigence, parce que ça peut vite devenir une exigence, une bienséance, j'ai envie de dire, quelque chose d'attendu, intervient dans un processus qui se veut à l'écoute du vivant, qui se fait à l'écoute de ce qui est vivant en chacun. Et dès lors que l'on y met des injonctions, comme demander pardon, se dire pardon mutuellement, etc., ben pour moi, on s'éloigne du vivant, parce que c'est quelque chose d'extérieur à soi, d'un peu dogmatique, qui va nous être imposé. Et si on ne le fait pas, ben quelque part, on peut aussi être interprété. On peut passer pour une personne ingrate ou malveillante, parce que qui ne dit pas pardon. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'éducation. L'enfant à qui on dit, allez, va lui dire pardon, et puis lui, il sent que, bah, c'est pas du tout ni son moment ni son élan, et qui ne le ferait pas, eh ben on va se dire quelque part sale petit gosse quoi, tu n'es pas généreux, tu n'es pas aimant, quelque part tu n'es pas souple ou accueillant pour le, tu n'es pas du côté de la transformation de la situation, de la transformation positive de la situation, parce que ce serait tellement simple, tu dis pardon et hop, t'es de l'autre côté. Et si c'était si simple que ça, ça se saurait quand même. Et donc j'avais envie de creuser un peu ce sillon-là pour voir ce qui se passe dans cette notion de pardon. Parce que moi, ce mot pardon, il me donne toujours l'impression que il y a ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Et puis dans ma grande mansuétude, dans ma grande générosité, je t'accorde mon pardon, je te donne mon pardon, je te donne une forme d'absolution pour ce qui s'est passé, ce que tu as fait, etc. Et la réalité, c'est que moi, à l'endroit où je suis connectée un vrai préjudice, à une souffrance que les uns ont infligée aux autres, à un rapport de pouvoir incontournable qu'on n'a pas pu éviter, où il n'y a pas eu la liberté de dire non, bien à cet endroit-là, je ne ressens pas de pardon. Parce que, effectivement, je pense que le pardon est un état. C'est un état de gratitude, de lâcher prise. C'est un état où j'ai retrouvé le chemin de moi-même, en fait, où je me suis retrouvée, où je suis revenue complètement dans mes bottes, dans mon alignement, et où l'événement n'a plus prise sur moi. En fait, peut-être ce serait ça. Mais le pardon qui consiste à donner l'absolution à l'autre ou aux autres pour ce qu'ils ont fait, déjà moi je m'en sens pas légitime. Je trouve que ce n'est pas à moi de le faire. Et c'est ainsi que je comprends la phrase de Jésus sur la croix quand il dit « Pardonnez-leur Seigneur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ce qui est important pour moi dans cette phrase, c'est « car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est comme si pour atteindre cet état de réparation, il fallait savoir ce que l'on fait. Mais ce n'est pas à celui qui subit ou celui qui constate le préjudice ou celui qui souffre ou qui a souffert d'une difficulté. Bien sûr, il a son chemin de conscience à faire de son côté. Mais par rapport aux actes commis, ce pardon-là, ce passage vers un nouvel espace où les actes seront mis derrière pour nous permettre d'avancer de nouveau, il ne m'appartient pas. Il appartient à la personne qui a commis les actes de savoir enfin ce qu'elle fait, d'en prendre conscience. Et ça, c'est hyper important. Parce que on le voit d'ailleurs dans les questions judiciaires, il y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, les juges sont formés à bien distinguer les actes de la personne. Et les personnes, effectivement, pour moi, c'est important de ne pas leur tenir rigueur de ce qui est fait ou de ce qui a été fait, parce que moi-même, je suis une personne et il y a des moments où ce que je fais, c'est vraiment pas génial. Mais ça ne me définit pas en tant que ce que je suis. Je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas mes actes. À un moment donné, je vais m'adonner à des actes qui sont peut-être qui vont faire mal à quelqu'un ou qui vont lui porter préjudice, mais ça n'est pour autant pas ce que je suis. C'est un moment d'égarement, un moment où je suis soumis à des impulsions, à des émotions, à une histoire peut-être aussi qui s'exprime à travers moi. Mais ce que je fais n'est pas ce que je suis, dans le sens où à un moment donné ça m'habite, mais que le but ultime, c'est d'en prendre conscience, c'est de savoir ce que je fais, c'est de sortir de « pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » et de passer à « je sais ce que je fais et c'est cette raison pour laquelle je ne vais pas recommencer ». Ça s'appelle la conscience Et pour moi, tout l'enjeu, il est là, il est hyper important. Et c'est ça le plus important, en fait. Et quand j'anime une médiation, c'est ça qui me porte et qui me pousse à continuer et qui fait sens. C'est que au sortir d'une médiation, à chaque fois, on a grandi un peu en conscience. On s'est rendu compte. Parfois, c'était complètement inconscient. Et encore récemment, là, j'ai vécu une médiation où les personnes sont tellement de bonne foi. Elles ont vécu un truc qui a fait violence à quelqu'un à un point inimaginable parce que c'est venu taper sur, en plus, des blessures de son histoire, etc. Et personne n'avait vu que la scène telle qu'elle s'est déroulée, les actes mis les uns après les autres, ça avait produit cette souffrance-là chez une personne qui était dans l'histoire et qui, elle, l'a subie de plein fouet. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on n'est pas conscient de ce que l'on fait, où on croit être du côté du bien. Et ça aussi, c'était un peu un héritage de notre éducation, parce qu'on n'a pas tellement appris à prendre toute la dimension d'une situation. On a plutôt appris à obéir, à contrôler ou à être contrôlé, à se projeter dans des idéaux, des idées, des idéologies, à répondre à des conventions ou à des injonctions sociales ou sociétales. Mais on a très peu appris à connecter notre vérité en étant en pleine relation avec notre ressenti, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans un contexte donné, et à se connecter à ce qui se passe pour l'autre. C'est pas ça qui domine dans notre vie d'enfant et d'adolescent quand on grandit. Ce qui domine, c'est que il y a le bien, il est là autour de nous, en filigrane, on en parle, on essaye de nous l'inculquer, avec cette bizarrerie énorme qui est que très souvent, les exemples manquent autour de nous. On nous parle du bien, mais les parents, ils se disputent, ils se parlent mal, ils perdent patience, ils sont parfois violents. Et puis on nous raconte qu'il faut être gentil, sage, non violent, bien travailler à l'école, avoir des bonnes notes, être discipliné, etc. Et puis les exemples que l'on voit autour de nous, quand on est un enfant, c'est un peu tout le contraire. Il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup d'indiscipline, il y a beaucoup d'émotions débordantes, il y a beaucoup de non-maîtrise, justement. Des comportements humains. Voilà, donc on est dans un espèce de magma où il y a de la dissociation entre ce que je ressens, mais auquel je peux assez peu me connecter, parce que c'est assez perturbant de ressentir quelque chose et qu'on nous demande autre chose. Et puis d'ailleurs, on ne nous demande pas tellement comment on se sent face aux situations et on n'a pas la liberté de choix, d'un choix qui viendrait justement de qui nous sommes vraiment et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous guiderait vers notre destin pas à pas pour nous construire en écoutant notre guide intérieur, comme disait Maria Montessori. Donc, c'est pas ça qui se passe la plupart du temps. Alors, comme on n'a pas appris à être avec ce réel, avec cette réalité qui nous habite, puisque ça s'appelle le vivant, c'est vraiment comme ça qu'on est équipé. Quand on est vraiment équipé avec cette capacité de ressentir ce qui se passe en nous, nos réactions à l'environnement, ce que l'environnement nous fait vivre intérieurement. Et bien à ce moment-là, voilà, on est des êtres adaptés, mais qui ne savons pas vraiment où est notre vérité. Là où je veux en venir, c'est que je n'accorde pas mon pardon parce que je ne suis ni légitime pour le faire, ni portée à le faire parce que je ressens à l'intérieur de moi, à des actes que je déplore et que je pense que s'ils n'avaient pas eu lieu, la vie serait tellement plus douce, quoi. C'est-à-dire que moi, je me sens pas de pardonner le génocide amérindien, je ne me sens pas de pardonner la Shoah, tous les génocides d'ailleurs. Je ne ressens pas de pardon pour les personnes qui vont acheter des milliers d'hectares de forêt d'Amazonie pour tout dévaster et laisser un désert derrière elle. Voilà, je ne ressens pas de pardon pour des personnes qui vont abuser de leurs enfants ou il n'y a pas de pardon pour l'inceste, il n'y a pas de pardon pour le violeur et pour le viol. Pour le violeur, pour le viol plutôt que pour le violeur. Et moi, à l'intérieur de moi, par rapport à certaines choses que j'ai subies parce que j'avais pas le pouvoir de les orienter autrement, parce que d'autres en ont décidé ainsi, à cet endroit-là précis, où il y a un préjudice, donc où il y a des personnes qui sont en souffrance à cause de ce qui s'est passé, je ne ressens pas de pardon à cet endroit-là. Je suis désolée. Peut-être que c'est un manque de spiritualité de ma part, de grandeur, d'âme, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est. Et paradoxalement, je me sentirais capable de vraiment entendre les personnes qui ont commis ces actes-là et même de les prendre dans mes bras. C'est pas quelque chose qui me... Moi, je me suis déjà visualisée en train de prendre dans mes bras des personnes qui ont commis des actes que j'ai subis et qui ont été extrêmement violents parce que je distingue l'acte de la personne. Et l'acte reste impardonnable. Je veux dire que l'acte d'un inceste, c'est un acte impardonnable. Il n'y a aucune raison pour moi de dire bon bah allez on passe l'éponge, c'est pardonné. Non, au contraire, je pense que il faut vraiment que cet acte-là reste dans sa catégorie, et sa catégorie c'est l'impardonnable. Pour que on prenne conscience de ce que c'est cet acte-là, des effets qu'il a, et qu'on reste avec ça, que l'auteur puisse vraiment savoir ce qu'il fait, donc rester avec et prendre conscience. Et il y a quelque chose dans le pardon qui est facile, c'est-à-dire bon, on va lui demander pardon, allez, ah pardon, ok, hop, on passe à autre chose, terminé. Et après, ça recommence. Et quand ça recommence, va lui demander pardon, pardon. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les récidivistes. Si vous regardez bien, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que notre système de justice, il est que très partiellement efficace. Parce qu'on sait que, par exemple, pour les crimes sexuels, il y a plus de 50% de récidive. Parce que la personne, elle n'a pas compris, en fait, ce qu'elle a fait. Et que c'est pas juste en disant, bah, tu vas faire ta peine. Comme ça, tu auras... payer ta dette envers la victime. C'est un peu la même chose finalement. C'est bon, d'accord, voilà, tu es enfermé pendant des années et tu ressors de là et hop, ça recommence. Parce que le travail de conscience n'est pas fait, il n'est pas accompli. La personne, elle n'a pas pu rejoindre l'endroit d'elle qui l'a menée à avoir de tels actes et à vraiment se les approprier, transformer, les transmuter profondément à l'intérieur d'elle. Et ça va passer par refaire ce chemin vers soi pour comprendre ce qui nous amène à cet endroit-là, quoi. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. C'est pour ça que le pardon, il a pas de légitimité à cet endroit-là. C'est pas à moi de faire le chemin, c'est à l'auteur de faire le chemin. Moi, je peux le faire pour moi, je peux faire quelque chose pour moi, je peux me libérer peut-être d'un poids ou d'une charge que je porte. Et là, je laisse personnellement, par rapport à ce que j'ai vécu, je laisse le temps faire. C'est-à-dire, il y a comme une érosion naturelle qui est là et qui se déroule dans la lenteur d'un processus de cicatrisation sur lequel je n'ai pas tellement de prise au fond. La seule chose que je peux faire, c'est être le plus possible et autant que je peux du côté de la vie, du vivant, du renouveau, du printemps. C'est-à-dire laisser l'hiver décomposer ce qui est arrivé avant. Et peut-être qu'il faudra plusieurs saisons, plusieurs années pour que cette décomposition soit complète. Mais ça se fait à un endroit de moi. Peut-être c'est ça qu'on appelle le pardon. Mais en tout cas, moi, ça me relie profondément à un état où il n'y a plus la souffrance de ce qui s'est passé. Et du coup, l'autre et les autres sont vus en tant qu'auteurs comme les acteurs un peu les marionnettes de ce qui s'est passé. Et je les perçois avec une certaine impuissance, dans le sens que les prises de conscience autour de ces événements, bah, ça leur appartient. Est-ce que tu vas prendre conscience ou non de ce que tu as réalisé? De la souffrance que t'as causée, à toi de voir. Donc dans les processus de résolution de conflits ou de réparation, ce qui me paraît pertinent et important, c'est la rencontre entre les personnes. C'est mettre de la conscience sur ce qui s'est passé, mettre de la conscience sur les actes, mettre de la conscience sur les mobiles qui ont habité ces actes, qu'est-ce qu'il y avait derrière pour que ces actes aient eu lieu. Donc mettre de la compréhension. Peut-être arriver à des accords et des conclusions qui sont satisfaisantes pour les deux parties, c'est-à-dire créer un espace d'écoute là où il n'y en avait pas. Parce que lorsqu'il y a prise de pouvoir et lorsqu'il y a préjudice, lorsqu'il y a des actes qui portent préjudice à quelqu'un, il n'y a pas la liberté pour l'un des deux. Il y a une partie qui subit l'autre. Même si des fois il y a beaucoup de complexité et il y a des raisons pour lesquelles... Et c'est toujours d'ailleurs, c'est pas que des fois, c'est qu'il y a toujours des raisons complexes à des actes. Mais parfois, la personne qui les subit, elle est même en dehors de l'histoire, parce que parfois, un être peut être amené à porter préjudice à quelqu'un qui ne lui a rien fait. ça arrive de nombreuses fois, et les juges voient beaucoup d'histoires comme ça, où ça tombe sur une personne, mais voilà, qui se fait voler ses affaires ou qui subit de la maltraitance, alors que il n'y avait pas de lien particulier entre les protagonistes. C'est juste, voilà, j'ai pas envie de dire l'effet du hasard parce que je crois pas trop au hasard, mais en tout cas, c'est juste la rencontre entre deux histoires qui viennent à un moment donné se télescoper brutalement dans des faits de violence ou de domination. Mais ce qui me paraît précieux, c'est qu'à la fin de tout ça, il y a une conscience qui a grandi, donc une compréhension bien plus vaste et qui nous sort du champ de la sidération émotionnelle pour nous emmener dans celui de la conscience universelle, parce que ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre au fond. Et c'est ça aussi que je peux toucher, c'est que je peux vraiment me laisser imaginer, mais c'est au-delà de l'imaginaire, c'est quelque chose de plus partagé, de plus universel que ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est dans le champ du collectif que ça se passe, que ce qui a amené l'autre à des actes de barbarie ou des actes de préjudice, ça aurait pu m'arriver à moi aussi, au fond. Parce que le cheminement, il a une logique, même si c'est une logique morbide, il a quand même une logique. Et je vous invite à regarder à nouveau, si vous l'avez déjà eu devant les yeux, cet extrait de film de Human de Yann Arthus-Bertrand, où au début du documentaire, il y a un homme qui apparaît, un homme noir de peau, et qui explique qu'il a commis un crime qui l'a mené en prison et à un emprisonnement à perpétuité. Il a tué sa compagne et l'enfant de sa compagne. Et il explique que lui, il était un enfant battu à coups de fil de fer, à coups de cruellement battu. Et que son beau-père, en le battant, lui disait que il le faisait par amour. Et cette personne a grandi avec l'idée que l'amour et la violence, c'est une seule et même chose. Et que presque, il dit à un moment donné, qu'il mesure l'amour de l'autre par sa capacité à subir la violence. Il était dans ce chemin, dans ce cheminement, dans ce schéma de croyance et de enfermé dans ce schéma d'existence. Et ça l'a mené au meurtre. Et il raconte aussi que ce qui a permis de le délivrer vraiment de cet état, ça a été les visites en prison qu'il a reçues d'une femme. Et cette femme, c'était la maman des victimes. Et elle est venue se confronter à lui. Elle est venue l'écouter, elle est venue lui dire aussi la peine qu'elle avait. Et il dit, il exprime, elle m'a appris l'amour. Et à chaque fois, ça me donne des frissons quand je suis reliée à cette histoire. C'est que c'est comme ça qu'il a appris l'amour. Et là, il a des larmes qui coulent et c'est vraiment un moment très très fort. Et cette personne, elle lui a appris l'amour, non pas en lui disant bon, je te pardonne parce que tu vois, ma religion me l'impose, ou je suis une bonne personne qui pardonne, etc. Et je suis cette personne extraordinaire. Non, pas du tout. C'est juste, cette personne, elle lui a juste remis les choses à l'endroit en étant juste cette maman qui souffre de la perte de ses proches. Et là, tout redevenait logique. C'est un moment, il l'exprime, je sais plus comment il exprime ça, mais les choses redeviennent logiques. C'est j'ai des êtres chers, je les perds, j'ai mal. Voilà, c'est juste le chemin naturel de l'amour. Et ça lui permet à lui de faire ce chemin de conscience, de savoir ce qu'il a fait, de se comprendre, ce qu'il va comprendre du coup. On voit bien qu'il a intégré son histoire dans le sens où il sait d'où vient sa violence, alors qu'avant il l'ignorait. Donc il a appris, et en apprenant, et bien effectivement, il a pu rejoindre le versant de la conscience en fait. Se remettre dans la conscience, à la fois de ses actes et puis aussi des actes de ses prédécesseurs. Et voir comment la violence se déploie en cascade de génération en génération. Donc, savoir ce que l'on fait, c'est ça. C'est la seule garantie que ça va pas recommencer derrière, quoi. Il y a quelque chose qui est intégré, qui est compris. Venir dire à l'acteur de faits graves ou préjudiciables, voilà, je t'ai pardonné, je sais pas à quoi ça va lui servir, en fait, si lui, il a pas compris ce qu'il a fait. Et en quoi ça va servir le monde? C'est presque une démarche assez égotique, au fond. C'est bon, ben moi, c'est bon, mon linge est à nouveau blanc, je suis content, quoi. Bon, voilà, c'était une petite réflexion sur le pardon. Je ne sais pas si ça rejoint quelque chose chez vous. En tout cas, je ne vous demande pas d'adhérer, évidemment, mais juste peut-être de vous laisser un peu chahuter par ce que j'apporte là par rapport à une pensée un peu plus conventionnelle où on a peut-être cru quand on était petit que juste dire pardon c'était un super acte, super chouette et qui presque magique. Presque magique, qui nous délivre du mal, comme dirait l'autre. Je pense qu'au fond, c'est un peu plus complexe que ça et que ce qui compte vraiment, c'est d'accueillir ce qui est vrai. Et quelqu'un qui dirait, par exemple, quelqu'un qui dit en médiation, mais non, mais je pardonne pas, ça me... Bah, moi, c'est OK. Et je vais pas le juger pour ça et je vais pas penser que c'est une mauvaise personne. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion sur un plan qui est ne pas pardonner des actes, ça ne veut pas dire qu'on va se venger. Celui qui a subi, il a aussi son chemin de conscience à faire, en fait, pour essayer de vraiment avoir de l'empathie pour toute la situation, pour l'ensemble de la situation. Dans l'exemple que je vous ai raconté sur le film de Yann Arthus Bertrand, c'est ça. Il n'y a que des êtres empathiques au bout de la situation. C'est que la maman, elle est dans sa souffrance et dans son empathie en même temps, parce qu'elle vient à la rencontre de cet homme. Elle vient et elle revient et elle revient et elle lui donne de son temps, de son attention, elle partage en fait quelque chose. Même si c'est de la peine et l'envie de comprendre, mais elle partage. Et ça humanise énormément la relation. Donc il ne s'agit pas de dire, ben voilà, vous ne pardonnez pas, vous restez vraiment fâché, vous restez en colère, vous restez dans votre haine, quitte à la mettre en acte derrière, quoi. Ce n'est pas du tout ça que je viens de dire. J'espère que j'ai été claire, que chacun a son chemin à faire des deux côtés. Et que le seul moyen d'en sortir à un moment donné, c'est que celui qui a subi, il investisse aussi ce champ de la conscience qui lui permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc plutôt que de tourner son attention vers l'autre pour lui donner éventuellement un pardon plus ou moins incarné, bah c'est peut-être tourner l'attention vers soi et puis voir avec l'exemple que j'ai sous les yeux de ce qui s'est passé, comment je fais moi pour ne pas devenir cela. Et on a des exemples très frappants, je trouve, aujourd'hui, de peuples qui ont subi des exactions terribles et qui aujourd'hui sont en train de faire subir des exactions comparables à un peuple frère. Donc là, c'est vraiment le signe et la preuve que le travail de conscience n'est pas accompli. Je n'ai pas trouvé le chemin qui me permet de ne pas commettre ces crimes, d'y renoncer, de comprendre profondément que c'est une voie sans issue. Et c'est là aussi que la notion de pardon, elle est équivoque, parce que quelque part, si je pardonne à mes bourreaux, à un moment donné, ça veut dire que moi, le jour où je suis confrontée à commettre les mêmes actes, et comme j'ai pardonné, comme ils sont pardonnables ces actes-là, quelque part, je me les accorde aussi à moi, parce que, et peut-être avec l'idée que derrière, moi aussi j'aurais droit à un pardon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui peut aussi générer du malentendu, en fait, qui peut générer une certaine forme de malentendu, y compris chez l'enfant, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est facile, en fait, je lui fais mal, puis après je vais dire pardon. Puis il me fait mal, et puis il me dit pardon, et puis on joue à ça. Mais à quel endroit on est invité à mettre de l'attention sur nos actes, plutôt, et sur ce qui va déterminer nos actes, sur ce qui nous pousse à agir de telle ou telle manière? À la fin des médiations, bien souvent, plutôt que se dire pardon, donc ça c'est quelque chose que ça n'intègre pas du tout dans le processus. En tout cas, si les gens, si les personnes, les médians ont envie de présenter des excuses, c'est tout à fait bienvenu lorsque c'est un élan. Mais le plus souvent, c'est plutôt exprimer ce qu'on a compris de la situation et puis se dire que comment on pourrait faire pour que l'autre ne subisse plus de préjudice et ne ressente plus la situation en négatif ou n'ait plus à subir quelque chose qui lui est désagréable. Donc on cherche tout simplement des solutions. Et ce sont aussi souvent des actes ou des intentions qui sont posées, mais qui sont du domaine du concret et de l'engagement. Il y a un engagement. Voilà, il n'y a pas juste on ferme les yeux sur ce qui s'est passé et puis on se dit pardon et basta, quoi. C'est non, il y a un engagement qui est pris de rester conscient de ce qui s'est passé et de faire autrement pour la prochaine fois, de faire autrement, en tout cas d'essayer de faire autrement. Parce que des fois c'est difficile, mais on va essayer de faire autrement. Et peut-être qu'on va retomber et devoir se relever de nouveau, mais ça fait partie du chemin. C'est pas magique non plus, les résolutions qu'on peut se donner en fin de médiation. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur le pardon vous aura nourri et peut-être que j'y reviendrai dans un autre podcast. Je vous remercie de m'avoir écoutée.